Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Dans quel domaine n'a-t-elle pas de talent? On cherche, on trouve pas. Amanda Sterz, écrivaine, dramaturge, scénariste, réalisatrice de plusieurs longs métrages, bref, conteuse magnifique et gourmande, publie chez Grasset Le Café Suspendu. C'est cocasse, poétique, haut en couleur, inondé du soleil de Naples qui n'empêche pas la mélancolie. Ce roman est tissé de 7 nouvelles, toutes reliées par ce fil invisible qu'est Le Café Suspendu, une tradition napolitaine. Voilà, le roman vient de paraître chez Grasset. Bonjour Amanda Sterz.
Bonjour.
Alors Amanda Sterz, je vous lis. Si vous fermez les yeux, vous entendrez les linges qui dansent au vent comme au temps d'étendard, les mâts clinquants des bateaux, les voix qui rient ou crient au loin, la mer tyrrhénienne qui s'en va et revient, quelques vespas agiles. Et tout ce cœur improvisé vous dira qu'un chemin est gravé sous les semelles de ceux qui foulent les pavés napolitains. Il faut aimer Naples, hein. Il faut être amoureuse de Naples pour écrire ainsi.
Je le suis en partie, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'attirent dans cette ville.
C'est vrai?
Oui.
Comme?
À commencer par cette tradition napolitaine qui veut dire beaucoup de choses, je trouve, sur une ville, cette tradition du café suspendu. Je pense que c'est ce qui m'a attirée. J'avais vu Naples une fois, je crois que je n'avais pas vraiment bien compris ce que représentait la ville. Et j'y suis revenue faire des recherches comme une romancière. Et là, je suis tombée effectivement sous le charme de la ville.
Alors, on va évoquer tout à l'heure justement ce qu'est cette tradition napolitaine dont vous m'avez appris juste avant de démarrer l'interview qu'il y a 3 jours de cela, c'est absolument fabuleux pour la promo de ce roman, eh bien, en fait, il a été décidé d'intégrer au patrimoine immatériel de l'humanité la fameuse tradition du café suspendu. Mais c'est une sorte de teasing, on va dire aux auditeurs de quoi il s'agit tout à l'heure. D'abord, vous, la grande voyageuse Amanda Sterz, qui vit entre Paris et Los Angeles, je vous ai entendu confier que peut-être un jour, c'est à Rome que vous poserez définitivement vos valises. Pourtant, eh bien, c'est Naples que vous avez choisi comme décor autour de ce café où le narrateur de votre roman passe une grande partie de son temps. Naples a la fantaisie de tous les dangers, c'est ça? C'est plus excitant pour un auteur?
Il y a plusieurs endroits qui sont excitants pour un auteur. Ce qui est excitant, c'est justement de devoir appréhender un lieu avec tout ce que ça a de beau et de moins beau. Et c'est comme un personnage, c'est-à-dire que les défauts d'une ville deviennent aussi sa force.
Ouais.
Et donc, il faut apprendre à la regarder, à l'appréhender presque de façon accélérée, comme si on y avait vécu toujours. Et pour avoir la sensation d'avoir vécu toujours quelque part, il faut expérimenter la vie très fort dans un endroit. Il faut essayer d'aller très tôt justement dans ces cafés, comprendre comment les gens vivent. Il faut parler aux locaux, aux vieilles dames sur des bancs. Il faut se frotter à la vraie vie. En tout cas, Naples, en l'occurrence pour ce roman, et c'est quelque chose que je fais en général quand j'essaye de mettre en scène un lieu.
Alors, pour nous présenter le narrateur de votre roman, vous écrivez « Mon nom est Jacques Madelin, j'ai 72 ans ». Amanda Sterz, en fait, entrer dans la peau d'un homme âgé, c'est vraiment un jeu récurrent, pour vous, depuis d'ailleurs le triomphe de votre pièce de théâtre, « Le vieux juif blonde ». Mais d'où vient ce fantasme?
Je suis pas sûre que ce soit un fantasme, c'est juste que j'ai pas l'impression que l'enveloppe corresponde forcément à qui on est à l'intérieur. Et en fait, je pense que ça enlève une forme de pression. D'abord, ça, c'est très loin de moi, donc je suis pas dans un rapport autobiographique. Et j'ai jamais pensé que... On me dit souvent, tu parles très bien des hommes, mais en fait, c'est sûrement parce que je les caricature pas. Et j'ai jamais pensé qu'un homme ou une femme avait des qualités spécifiques, voilà, qu'il y ait des choses, toutes ces choses préconçues sur la façon dont un homme aime ou une femme aime. Je pense qu'il y a des êtres différents et qu'il y a des êtres qui sont de telle ou telle façon. Après, on a prêté de la féminité ou de la masculinité à certaines qualités ou certains défauts. Je ne suis pas du tout d'accord avec.
Mais en psychanalyse élémentaire, on dirait que, je ne sais pas, vous êtes peut-être à la recherche du père. Et justement, d'ailleurs, votre père est psy.
Oui. Alors, je ne suis pas à sa recherche, il est bien là.
Non, mais il y a une espèce d'Oedipe comme ça, qui passe comme
peut-être,
les gens.
Peut-être, mais je pense pas que ce soit ça. Peut-être c'est plus essayer de le comprendre, parce qu'il est d'une génération où on ne disait pas trop... je t'aime d'une façon ou d'une autre. C'est quelqu'un de très pudique, en fait. Et c'est peut-être essayer de comprendre qui il est.
D'accord. Alors, Amanda Sterz, Jacques Madelin, en fait, votre personnage n'est que, j'ai envie de dire, le narrateur des 7 histoires qui vont se tisser sous ses yeux, toutes liées donc par le fil invisible qu'est, selon la tradition napolitaine, le café sospeso, qu'on traduit donc par café suspendu. Ça n'existe qu'à Naples, et cette tradition, elle est née au 19e siècle. Il est temps de nous expliquer en quoi ça consiste.
Donc quand on va dans un café à Naples, on peut se payer une tasse de café et en régler une seconde et la laisser à l'ardoise pour quelqu'un qui n'aurait pas les moyens de s'en payer une. Donc c'est une sorte d'acte de charité sans savoir à qui va aller ce café. Ouais.
C'est absolument incroyable, parce que Naples est plutôt... connu pour ses vols à la tire, pour sa mafia, moins, hélas, c'est dommage, pour ses cafés suspendus. Et la tradition, elle perdure, hein, ça vit toujours aujourd'hui.
Oui, c'est quelque chose qui existe dans la quasi-totalité des cafés de Naples.
Mais pas à Rome, par exemple.
Non, il y a quelques endroits dans le reste de l'Italie, mais c'est quand même vraiment spécifiquement napolitain.
Alors Amanda Sterz, vous faites dire au narrateur, du côté de celui qui laisse, comme de celui qui reçoit, la vie passe dans cette tasse qu'on tend dans son imaginaire ou qu'on accepte demain inconnu. Ce qu'on offre, en fait, c'est pas un café. C'est le monde autour, c'est du chahut à partager, des regards à croiser, des gens à aimer. Quand on a compris ça, on peut donc plonger dans la lecture de ce roman qui convoque des personnages, en fait, qui auraient fait merveille dans les films, par exemple, d'Ettore Scola ou de Dino Risi ou de Roberto Rossellini. J'ai vraiment eu cette sensation de plonger dans l'âge d'or du cinéma avec la ronde des personnages que vous avez convoqués dans ce roman.
Oui, c'était vraiment la base du livre, c'est que cette tradition crée du lien social. Et donc, il fallait créer des personnages hauts en couleur. J'avais cette chance d'avoir ce décor napolitain et donc d'avoir le droit d'écrire ces personnages, puisqu'ils existent bien dans les rues de Naples. Les gens parlent fort, les femmes sont plantureuses, il y a quelque chose d'un peu félinien aussi. Ouais, on voit bien dans le dernier film de Sorrentino, La main de Dieu, la façon de parler des Napolitains, la façon de rêver, de s'autoriser une sorte de poésie dans le quotidien. Donc je me suis vraiment amusée en effet, et c'est que des références que j'ai, parce que quand j'étais étudiante à la Sorbonne, j'ai eu la chance d'avoir un cours du cinéma italien sur l'histoire du néoréalisme italien.
Oui.
Et c'était miraculeux parce que c'était à l'époque, c'était dans le cours de Paris 4, mais comme il n'y avait plus de place, ils nous avaient mis dans le Petit Palais, qui était encore, c'était avant les travaux. Et on étudiait, donc le seul problème c'est qu'il n'y avait pas de chauffage, mais donc l'hiver on regardait tous ensemble sur un grand écran, dans ces salles de classe, les chefs-d'œuvre du cinéma italien.
Bon, votre écriture, Amanda Sterz, elle est vraiment gourmande, je l'ai dit, elle est haute en couleur, et donc terriblement cinématographique. On a le sentiment que les scènes, en fait, jaillissent dans votre tête comme les plans dans le viseur d'une caméra. Bon, on va parler de cinéma puisque vous avez réalisé des longs métrages. Mais voilà, pas seulement écrivaine en fait, cinéaste.
En tout cas, quand j'écris, je ne le pense pas, mais je pense que c'est ce qui m'a menée vers le cinéma. C'est que je suis quelqu'un qui pense beaucoup en images, et l'esthétisme est quelque chose d'important pour moi. Et je voulais que les gens puissent avoir... tout en laissant des silences, en laissant de la place pour leur propre peinture, leur propre décoration, mais qui est quand même une structure assez précise. J'aime bien qu'on ait l'impression de comprendre où on est, de rentrer dans un lieu et de le reconnaître, en fait.
Eh ben, je vous confirme que ça fonctionne. Alors justement, ce roman, Le Café Suspendu, il est fait de cette nouvelle espacée d'intermezzo. Je ne sais pas si on pourrait dire interlude, entr'acte, voilà, au cours desquels le narrateur se livre et digresse sur la vie. Et quand il parle à la première personne, c'est vous qu'on croit entendre. Par exemple, vous lui faites dire à Jacques Madelin, il y a les gens heureux et puis il y a ceux qui créent. On crée parce qu'on n'est pas heureux.
Alors, là, c'est pas forcément moi, mais je pense que Jacques, il écrit son premier livre, là, en fait, à travers cette observation des gens. C'est sa seule œuvre, c'est sa première et dernière œuvre. Et je pense que quand on écrit au début, on a besoin de se débarrasser d'une chose de soi-même. Il y a quelque chose de très douloureux dans l'écriture des
ouais,
premiers
textes.
C'est
pour textes. Ça que les premiers romans voilà. sont pratiquement toujours autobiographiques.
Et je pense que c'est ça que je voulais dire de lui, ce personnage-là.
Mais alors maintenant,
souffre.
C'est à vous que je pose la question.
Moi, c'est très... Je suis très bien.
Parce qu'il y a une faille,
non,
un manque.
Bien sûr, il y a une faille originelle. Et ensuite, une fois qu'on l'a soignée, soit le désir d'écriture ou de l'urgence artistique s'envole, soit on en fait autre chose. Et pour ma part, je pense que ça s'est transformé depuis quelques livres et que ce que j'ai envie d'en faire, c'est vraiment laisser, comme on laisse des petits cailloux sur la route pour que les gens retrouvent leur chemin. Voilà, c'est à mon échelle toute petite, c'est comme poser une couverture sur les épaules des gens. J'ai envie d'écrire des livres qui vont faire du bien.
Et puis il y a cette autre phrase, Amanda Sterz, confiée par le narrateur. J'ai toujours su qu'il y avait une différence entre celui que je suis et celui que je suis quand j'écris. Il y a cette différence en vous. La femme et l'écrivain ne sont pas exactement les mêmes personnes.
Oui, il y a une différence qui est d'abord qu'à partir du moment où j'écris, je suis ni la mère de mes enfants, ni la fille de mes parents, ni la petite amie de quelqu'un. Je suis moi toute seule et je suis très libre. Sans doute une des raisons pour lesquelles j'ai aussi un pseudonyme, parce que je n'appartiens qu'à moi.
Oui.
Et c'est important ça, quand on écrit, je pense, de se dire qu'on a le droit de désobéir ou de déplaire, ou de, c'est pas le problème, et pas de faire plaisir à ceux qui nous entourent. On est en train d'écrire de façon plus large, et oui, il y a vraiment deux personnes différentes. Et puis surtout, je suis assez réservée et timide dans la vie, alors qu'à l'écrit, je peux être... si je veux.
Juste avant de faire une pause, pourquoi justement ce pseudonyme, puisque Sterz n'est pas votre vrai nom?
Non, c'est mon deuxième prénom, Esther, que j'ai transformé.
Ah, ouais. D'accord. On va tout savoir, ou presque. Amanda Sterz, vous êtes la fille d'un psychanalyste qui vous laissait, paraît-il, quand vous étiez enfant, assister à ses séances. C'est pas anodin du tout, ça?
T'es un psychiatre, le pauvre. C'est-à-dire que, non, en fait, il m'a laissé quelquefois à la fin de certaines séances avec des gens avec lesquels il a fini par devenir ami. Voilà, j'ai été assise sur ses genoux 2-3 fois quand j'étais vraiment toute petite parce que le cabinet était dans notre appartement. Voilà, j'ai pas assisté à des séances
avec
des gens.
Sinon, j'allais vous demander
pleurs.
Ce que vous captiez justement de ces
revanche,
séances.
Je m'étais 2-3 fois enfermée dans le placard de l'entrée qui était à côté pour essayer d'écouter. Je pense que j'ai vraiment des souvenirs super vagues et c'est vrai que c'est très romanesque. Alors voilà,
oui, parce
ça a été
qu'on
beaucoup...
se dit que on a donc un papa tout à fait singulier, puisqu'on vient se confier à lui comme s'il était seul à avoir toutes les grandes réponses existentielles.
Oui, j'ai de toute façon un papa singulier, mais c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment on soignait les gens avec des mots. Et un jour, on m'a demandé, mais t'as jamais voulu faire le métier de ton père? Et je me suis rendu compte que quelque part, je le faisais,
mais
que
oui.
Je soignais aussi les gens avec des mots.
Exactement. Vous m'avez dit, oui, à l'instant, j'ai un papa singulier. Qu'est-ce qu'il a de plus singulier, ce père?
Il est très brillant, très surprenant. C'est quelqu'un qui m'a toujours autorisé à être libre, mais en me forçant à ne pas avoir peur du regard des autres. Je me rappelle qu'il m'avait un jour, par exemple, fait descendre en pyjama. On habitait à l'angle d'une poste. Il y avait un bureau de poste en bas. Et il m'a dit, descends avec ton pyjama et ta robe de chambre, mettre les lettres. J'ai dit, mais non, je vais m'habiller. Il m'a dit, mais non, mais qu'est-ce que t'en as à faire? Je lui ai dit, mais attendez, si je croise quelqu'un de l'école. Et j'avais super honte, mais il m'a dit, mais si tu croises quelqu'un de l'école, t'auras l'air marrante. Tu descends en pyjama, c'est pas grave, tu t'en fiches. Et je pense qu'il m'a appris ça. Il m'a appris à... voilà, faire ce dont j'avais envie.
Une certaine forme de lâcher prise,
oui.
Et de la fantaisie.
Oui, la fantaisie, c'est sûr. Ouais.
Alors, la fantaisie, justement, parce qu'avant d'être psy, votre papa, Amanda Sterz, il avait tenté une carrière de chanteur. J'ai appris qu'il avait créé un groupe, les Albatros,
ouais.
Dont les chansons étaient orchestrées par William Scheller.
Non, William Scheller était leur manager.
Ah, d'accord.
Et en fait, il avait deux groupes qui s'appelaient les Albatros et qui s'appelaient Classical M. Et il a été même signé chez RCA. Ils ont fait une première partie à l'Olympia.
Donc il a fait des albums.
Donc, oui, il a fait des albums. Mais en fait, c'était pas que sa carrière de chanteur marchait pas. C'est que quand il avait 20 ans, il était sur le point de signer un second album. en même temps, il faisait ses études de médecine et son père est mort. Et il était l'aîné de la famille et il a, voilà, il a choisi le métier responsable. Il s'est dit qu'il avait une sorte d'obligation familiale.
Alors, en quelque sorte, il a sacrifié sa vocation artistique.
Ouais. Alors, je ne suis pas sûre que non plus ça aurait été les Beatles, mais en tout cas, ça lui fait plaisir de le penser.
Bon, votre père s'est rêvé chanteur et plus tard, bah, vous avez épousé un chanteur. Voilà.
Ouais. J'ai cru pendant longtemps que c'était un truc oedipien. Après une longue psychanalyse, j'ai compris que pas vraiment, en fait.
C'est vrai?
Ouais. Je vais pas vous raconter ma psychanalyse, mais en fait, non. C'est plus en lien avec ma mère, bizarrement. Mais bon. Ça, c'est trop long à raconter.
Bon, alors, on se reverra pour une autre émission. Bon,
d'ailleurs, j'ai appris, alors que justement, j'ai un père psy, j'aurais dû le savoir avant, mais je me suis vraiment rendu compte qu'on parle souvent de l'Oedipe pour une femme envers son père, pour un homme envers sa mère, mais en réalité, l'Oedipe, c'est les deux parents. Et qu'on a aussi un Oedipe envers notre mère quand on a une femme. Oui. Donc, c'est plus large que ça.
Vous pensez que tout se joue dans l'enfance ?
Je pense qu'une grande partie se joue dans l'enfance.
Comme le prétendent tous les psys freudiens.
Oui, je suis à la fois très freudienne, très jungienne aussi. Mais je pense que tout se joue dans l'enfance, dans ce qu'on a comme faille. Et en revanche, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui continuent à justifier certains échecs ou certains manquements par ça. Je pense qu'on a assez d'armes aujourd'hui pour avoir le choix de se dire, oui, c'était dur, mais voilà, après, il y a des degrés de résilience en fonction de la violence qu'on a pu vivre enfant. Mais je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas en permanence se trouver l'excuse de l'enfance.
Alors, votre papa, il est de confession juive, votre vrai nom est Marouani, et vous dites que vous avez hérité au travers de sa culture orientale et au travers du judaïsme de cet élan irrépressible qui a toujours profité de l'instant avant que le malheur, peut-être, ne s'abatte sur nous. Ça, c'est quelque chose qui est très oriental, puisque votre papa, il est d'origine tunisienne.
Oui, alors mon père, il a déménagé en France, il avait un an, donc à part la nourriture tunisienne qu'on a un peu mangée.
Mais cette culture
Oui, c'est une culture, assez étrange, parce qu'elle est un mélange entre de la nostalgie et effectivement le besoin de profiter de l'instant, qui vient de deux choses différentes, parce que dans le judaïsme, il y a toujours cette peur du lendemain qui risque de ne pas exister, cette peur que les choses s'arrêtent, qu'on vienne nous chercher, et de l'autre côté il y a cette nostalgie immense, et les deux ensemble créent des gens à la fois très mélancoliques et joyeux. C'est dichotomique. Ouais.
Voilà. Bon, Amanda, on parle de votre papa, mais évoquons votre maman. Elle est d'origine bretonne, lointaine cousine de l'écrivain Yann Kefelek. Elle est avocate et lobbyiste spécialisée dans la défense environnementale. Vous aviez 7 ans quand vos parents sont séparés. En fait, votre vie, soudain, s'est divisée en deux histoires, en deux mondes, en deux univers.
Ma vie, oui, c'est en tout cas, elle se baladait, parce qu'elle ne s'est pas divisée, mais je me baladais avec mon frère et ma sœur entre deux mondes très très différents et deux personnalités très différentes, puisque mes parents, au-delà de leur origine, sont extrêmement différents. Il y avait une sorte de schizophrénie qui s'est installée dans ma vie à cette époque, ouais, et qui est restée, et c'est le thème de la plupart de mes premiers livres.
Bien sûr. Alors justement, parlons d'écriture. Le besoin d'écrire, Amanda Sterz, il s'est emparé de vous très très tôt, puisque vous étiez adolescente quand vous avez envoyé à l'éditeur Jean-Marc Robert votre tout premier manuscrit. Vous deviez avoir 15 ans, c'est ça ?
J'avais une quinzaine d'années, oui.
15 ans. Premier manuscrit qu'il a refusé, mais en vous encourageant chaleureusement. Qu'y avait-il dans ce roman si précoce ?
Alors j'ai gardé la lettre de Jean-Marc Roberts qui me disait, je me rappelle de la phrase où il disait « Vous êtes douée sinon à l'évidence, faites pour ça ». Je me rappelle avoir relu cette phrase 100 fois, ça m'avait donné de la force. Et ensuite il m'avait appelé, il était très étonné que j'ai 15 ans. Il m'a dit « Ah oui, alors donc je comprends mieux pourquoi c'est quand même encore un peu vert, mais vous avez… »
Vous n'aviez pas du tout précisé dans la lettre qui accompagnait le manuscrit.
Non. Ouais. J'avais peur qu'on ne veuille pas me lire. Et il m'a dit « Mais vous avez un sens du dialogue que je n'ai jamais vu chez personne, il faut que vous écriviez pour le cinéma. » Et c'est lui qui m'a fait écrire pour le cinéma en premier.
C'est extraordinaire ça. Mm-hmm.
Oui, je sens lui, je sais pas, peut-être que j'y serais venue, mais en fait, j'y avais même pas pensé. Pour moi, c'était pas... Je venais d'un monde où il y avait beaucoup de livres, assez intello, mais c'est vrai que j'avais même pas pensé qu'on écrivait pour le cinéma, honnêtement. Je regardais des films, mais ça faisait pas partie de mes nécessités au départ. Et puis, je suis allée acheter un livre, comment on écrit un scénario, et puis j'en ai écrit un, puis deux, puis trois, et voilà.
Exact, voilà. Et d'ailleurs, on le dira, vous avez obtenu au Festival du film de Paris un premier prix de scénario. Ouais. Voilà, donc ça a commencé ainsi, en fait.
Ça a commencé comme ça. J'ai fait à l'époque, c'était un peu plus difficile de partager les choses, mais oui, il y avait ce prix Sopadin, j'étais dans les finalistes de ce prix junior du meilleur scénario au Festival de Paris.
Oui.
Et j'ai trouvé un agent derrière ça, et voilà, ma carrière a commencé.
Mais Amanda Sterz, est-ce que c'est à cette époque-là que vous avez... là, je reviens aux 15 ans, 16 ans, l'adolescence, passée à écrire compulsivement. Est-ce que c'est à cette époque-là que vous avez déclaré à votre mère « Si on ne me publie pas, je me suiciderai ».
Alors, je n'ai pas dit ces mots-là parce qu'elle avait elle-même... perdu un frère, et donc j'aurais pas dit comme ça, mais je lui ai dit j'en mourrai.
Ouais. Vous lui avez dit j'en mourrai?
Ouais. Je lui ai dit si je fais pas ce métier, j'en mourrai, donc il n'y a pas d'option en fait. Il faut que
ça fonctionne.
Oui, j'écrivais pas pour moi. Je savais que j'écrivais pour être lu. C'était très important pour moi. Je peux pas vraiment expliquer pourquoi. Ça a précédé presque la conscience que j'allais faire ce métier. J'ai écrit, dès que j'ai su écrire, c'est devenu des histoires.
Amanda Sterz. Comme les griots, bah on devient souvent quand même conteur par transmission. Qui vous contait des histoires, enfant? Votre père? Votre mère? Ou bien c'était votre imaginaire qui ne se contentait pas du tout du réel?
Alors, les deux. Mes parents me racontaient des histoires que mon père inventait, ma mère lisait plus. Mais mon frère, ma sœur et moi, on avait notre monde à nous. On avait inventé une langue carrément et des personnages.
Vous aviez inventé une langue?
Ouais.
C'est-à-dire?
Ouais, on a une langue qu'on parle encore parfois entre nous, qui s'appelle le picoutoir.
et si on n'est pas initié, on ne peut rien comprendre.
Non, pas grand-chose. Et mon frère, ma sœur et moi, et mon cousin Sacha, et ça nous arrive encore de faire très peu malheureusement, mais dès qu'on peut faire un dîner en picoutoir, on le fait, on a un peu perdu.
C'est génial. Et alors, qui avait inventé la majorité des mots? C'est vous?
Non, franchement, on était tous, voilà, on a tous fait ça ensemble, et au fur et à mesure, en fait, les mots dans les phrases se remplaçaient par un autre, et c'était assez drôle. Mais du coup, on avait tout un monde à nous, avec des personnages, avec des histoires.
Donc, quelque part dans les maisons, dans les chambres d'enfants, il y avait des dictionnaires de picoutoirs.
Enfin, pas vrai, tout était dans notre tête, hein, c'est pas retrouvable.
Et quels livres ont marqué votre adolescence alors? Est-ce qu'il y a eu des auteurs essentiels pour vous?
Ah oui, de nombreux auteurs essentiels, mais en tout cas, dans l'adolescence, je me rappelle d'une révélation presque charnelle avant même les premiers émois amoureux. Je pense que mes premiers émois, c'est la littérature, et c'était « J'irai cracher sur vos tombes » de Boris Vian, et ouais. « Le diable au corps » de Radiguet. Je me rappelle que ce sont deux livres qui m'avaient vraiment troublée.
Où le diable au corps écrit, mais par quelqu'un de si jeune, ouais. Mon Dieu.
Mais du coup, peut-être qu'il parlait encore plus à quelqu'un de mon âge,
voilà,
de l'époque.
Ouais. Ouais.
Voilà, dans les... Et après, je lisais tout, beaucoup. Dès que je trouvais quelque chose, je le lisais. Mais je me rappelle même avoir lu tous les Agatha Christie. Donc, c'était pas que de ce qu'on appelle de la grande littérature. Mais en même temps, c'était hyper efficace, hyper intéressant. Et j'adorais Marguerite Yourcenar, Françoise Sagan... après j'ai lu Touvian, Romain Gary. Il y a beaucoup beaucoup d'auteurs qui m'ont vraiment transformée.
Alors Jean-Marc Roberts, effectivement, à qui vous aviez envoyé à l'âge de seulement 15 ans votre premier manuscrit, vous avez dit qu'il fallait écrire pour le cinéma, vous y êtes attelé, et on a évoqué ce prix que vous avez reçu au Festival du film de Paris, prix du meilleur scénario. Vous aviez quoi, 20 ans seulement. Tout à l'heure, quand je disais que votre écriture est cinématographique, effectivement, tout était en place très tôt. Et ceux qui ont été surpris de vous voir réaliser votre premier film 4 ans après l'apparition de votre premier roman n'avaient pas en fait compris à qui ils avaient affaire.
En fait, j'ai réalisé un court-métrage quand j'avais 18 ans. En fait, j'avais plutôt réalisé parce que je voulais que ce que j'écrivais existe. Et c'était très dur, j'arrivais pas à trouver de réalisateur. Et on est dans un pays où c'est vrai que les gens sont en général auteurs-réalisateurs. Ça va ensemble. Mais j'avais pas vraiment de velléité de réalisation à cet âge-là. Et c'est une femme formidable qui est encore la présidente du GC, qui s'appelle Brigitte Pancioni, qui m'avait commandé un scénario. Donc mon premier film était un peu un film de commande à l'origine, et qui m'avait dit à l'issue de l'écriture, mais pourquoi tu le réalises pas toi ? Et je n'avais pas prémédité cela.
C'était un court-métrage ?
Non, un long-métrage. Et donc à 29 ans, j'ai réalisé ce premier film qui s'appelait « Je vais te manquer » et je le dois à cette femme qui m'a fait confiance et qui m'a poussée.
C'est extraordinaire. Alors là, vous allez un peu vite en besogne, Mandasters, parce qu'il y a quand même une chose qu'on n'a pas évoquée. C'est surprenant et savoureux. Sans doute le public l'ignore d'ailleurs. C'est vous, à Mandasters, qui avez écrit les 60 premiers épisodes de la série qui deviendra culte sur M6, Caméra Café.
Alors parmi les premiers épisodes, c'est pas mon idée, hein, c'est l'idée formidable de Solo, le Bolloc.
Bien sûr, Bruno Solo, Yvan le Bolloc. Mais vous vous retrouvez dans l'aventure.
C'est tout à fait étonnant, ils ont fait un casting de jeunes auteurs, et puis voilà, ça a marché, et il y avait plusieurs autres auteurs brillants.
Là, en plus, il fallait faire incisif et drôle, c'est-à-dire qu'on peut être un auteur, un scénariste formidable pour des comédies romantiques ou des comédies plutôt intello, des films d'auteur. Là, il s'agissait d'un genre particulier, à la télé, des scénettes très courtes, et qui devaient être très très drôles.
Très efficaces. Je pense que je suis un vrai auteur de comédie. C'est vraiment une des choses. C'est vrai qu'on ignore parce que c'est pas ce que je montre en premier, mais j'ai écrit beaucoup de choses
en comédie. Voilà, ni dans vos pièces de théâtre, comme par exemple Le Vieux Juif Blonde, on ne va pas dire que vous êtes effectivement un auteur de comédie.
Non, il y a des moments drôles. C'est tout ce que j'écris souvent un peu justement à l'italienne, où d'un coup, au moment où on s'attend à pleurer, on rit et inversement. C'est pas
tragique,
voilà, mais je pense que pour moi la mécanique de la comédie c'est des maths, et je pense qu'une fois qu'on a compris la formule c'est faisable.
La mécanique de la comédie c'est des maths, voilà, comme le rire. Alors, mais je reste quand même sur Caméra Café. Vous étiez extrêmement jeune, vous aviez 20 ans, vous ignoriez toute la vie de bureau à Mandasters, mais vous avez réussi à trouver ces sketchs alors que, bon, vous ignoriez tout justement des mesquineries de la société
dans
Open Space.
Pas tout, parce que j'avais fait plusieurs fois des stages, des jobs d'été. Je me rappelle d'un été entier où j'avais travaillé, pire souvenir de ma vie, dans une société de recouvrement de créances à Rony 2. Super été, vraiment, je vous le conseille. Et avec l'enfer de voir rentrer des trucs dans un ordinateur, je comprenais rien. Mais bref, donc c'était pas complètement quelque chose que j'ignorais. J'ai toujours fait des choses. J'étais vendeuse. J'ai été comme toutes les étudiantes, quoi. Mais c'est vrai que j'imagine que j'écrirais les choses différemment aujourd'hui.
C'est vrai.
Ouais.
Qu'est-ce que, alors, quand il vous est arrivé de revoir justement des épisodes que
vous
aviez écrits?
Oui, parce que je les ai montrés à mes enfants.
Et alors, comment ont-ils réagi?
Ils ont ri.
Vous vous êtes dit, tiens, là, la chute, je l'aurais pas faite de la même manière.
Non, c'est pas forcément la chute, mais le traitement même des personnages, j'avais quelque chose de très... qui marchait super bien avec la série, parce que j'avais une chose peu naïve et fraîche qui faisait que ça marchait, et je pense qu'aujourd'hui j'aurais peut-être plus ça.
Mais ça correspondait aussi à l'époque, parce que justement ça remonte à,
surtout que c'était
une petite vingtaine d'années.
Ouais, facilement, mais surtout que quand M6 a lancé ça, il n'y avait pas encore les programmes courts. C'était très novateur et on avait une liberté folle. À l'époque, on a eu d'un coup la liberté qu'il y a eu au début de Canal, etc. Et je me rappelle qu'on pouvait aller loin, qu'on pouvait s'amuser. Je ne sais pas si aujourd'hui je pourrais rentrer dans quelque chose de formaté. Et c'est vrai qu'à l'époque, d'avoir eu cette chance, cette liberté de pouvoir s'amuser. Et puis surtout, j'avais la chance que Bruno Solo et Yvan Le Bolloc d'abord me donnent cette chance et m'aident et me tendent la main. Et qui voit quelque chose en moi.
Et qui joue de manière virtuose vos mots, c'est
mes
ça.
Mots, mais pas que. Je vous dirais à nouveau, il y avait toute une équipe. Donc en fait, on m'en parle beaucoup comme s'il n'y avait que moi, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'autres auteurs.
Alors Amanda, votre premier roman intitulé « Ma place sur la photo », il paraît en 2004, il est autobiographique, mais c'est avec la pièce de théâtre « Le Vieux Juif Blonde » que vous allez connaître dès 2006 un succès international, puisque je l'ai dit, ce texte est étudié à Harvard, il est entré en fait au programme d'Harvard en 2006. Et le sujet, il est pour le moins surprenant, puisqu'il s'agit du monologue d'une très jeune fille, blonde et solaire, qui se prend pour un ancien déporté, juif, de 80 ans, dont elle revit tous les tourments. Ce sujet-là s'est imposé à vous comment ?
C'est toujours très compliqué d'expliquer l'inspiration. En fait, il s'est expliqué à moi parce que je pense que j'étais dans une situation à l'époque où je pense qu'on n'avait pas le droit au chagrin quand on était une jeune fille blonde et jolie dans un certain monde. En fait, c'était comme si j'étais enfermée dans ce qu'on attendait de moi, ce que je devais être. Et je trimballais beaucoup de choses qui ne ressemblaient pas au physique que je trimballais, et je l'ai d'ailleurs rencontré beaucoup, beaucoup chez beaucoup de femmes, en fait. Et souvent, je comprends bien les femmes ou les jeunes femmes auxquelles je parle, ou d'ailleurs les femmes plus âgées, qui parfois sont prisonnières de leur physique. Et ça peut aussi être le cas pour des hommes, je veux dire, c'est d'un coup un gros costaud et sensible.
Qui est d'une délicatesse voilà. Folle.
Et en fait, ça parle aussi de choses qui sont aujourd'hui beaucoup plus acceptées, mais qui sont le genre, l'identité, qui sont des sujets qui m'ont toujours intéressée. Qui sommes-nous au fond ? Est-ce qu'on est l'enveloppe qui nous trimballe ou quelque chose d'autre ?
Mais cette
qui est
idée
pas
à
visible.
L'époque, elle était très novatrice. Elle était très, même, elle était très, très audacieuse.
Voilà,
ça
tellement que d'ailleurs, personne ne voulait faire la pièce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
enfin,
ça semblait.
Vous avez quand même eu un casting fabuleux pour la création de la pièce. D'abord, c'est Jacques Weber qui l'a mise en scène et Mélanie Thierry qui l'a jouée.
Aujourd'hui, ça vous semble fabuleux, mais Mélanie Thierry, qui est une immense actrice que je salue, quand je l'ai appelée pour lui dire que je lui avais écrit un texte sur mesure, parce que je l'avais croisée dans un ascenseur et que je lui avais dit « je vais t'écrire une pièce, je vais vous écrire une pièce », elle n'avait même plus d'agent, elle voulait changer de métier, elle voulait devenir directrice de casting. Et elle, parce qu'elle ne trouvait pas de travail, que personne ne voulait l'engager. Et quand j'ai voulu mettre Mélanie au théâtre, les gens me disaient « enfin, c'est pas un nom, on ne peut pas monter la pièce sur elle ». Et en fait, avec Jacques, on y a cru très fort et on est allé dans cette toute petite salle des Mathurins à 19h en pensant vraiment qu'il y aurait 4 personnes. On a mis beaucoup de temps à monter la pièce. Donc, il a fallu qu'il y ait des gens qui en tombent amoureux.
Voilà. Et les échos sont arrivés jusqu'à Harvard, où en 2006, on a décidé de faire étudier votre texte aux étudiants d'Harvard.
C'est Elie Wiesel, en fait, qui a donné la pièce à une professeure qui s'appelle Clara Gilakesous. Et c'est Clara qui l'a rentrée au programme.
Ils vous ont invité à Harvard ?
Oui, Clara m'a invitée, oui.
Ça a dû être très émouvant.
C'est toujours émouvant, c'est émouvant, mais en même temps j'ai quand même une sorte de sentiment d'imposture, c'est un peu étrange quoi, à vivre.
Amanda Sterz, alors 2 ans après l'aventure folle du vieux juif blonde, vous réalisez votre premier film avec Carole Bouquet et Pierre Arditi, Je vais te manquer. Jean-Marc Robert, vous avez dit que votre écriture était cinématographique, et ben voilà, vous prenez le concept à bras le corps, mais comment êtes-vous passé de la solitude de votre bureau d'écrivain à la folie d'un plateau de cinéma où il faut diriger des stars, avoir la réponse à donner aux 50 techniciens qui vous entourent? Enfin, tout à coup, on devient capitaine d'un navire. C'est dément.
Chaque réalisateur est différent. Chaque personne a une façon différente de comment on dirige une entreprise, de s'articuler avec les gens. Moi, j'ai un côté très maternant. Et c'est vrai que je connais le nom de tous mes techniciens sur un plateau. Je sais s'ils ont des enfants, s'ils sont heureux, comment ils vont. Donc je pense que c'est des aventures humaines qui m'ont toujours portée. Et ça a été parfois difficile, c'est très dur de tourner un film. Mais ma façon de diriger des comédiens, c'est de faire en sorte qu'on vive une aventure collective.
Alors, puisque votre époux Patrick Bruel est acteur, en tout cas, à l'époque, donc, vous étiez mariée. Est-ce qu'il vous observait travailler de loin en tâchant d'être le moins intrusif possible ?
On était déjà divorcés à l'époque, mais il m'a effectivement donné beaucoup de conseils et son regard a toujours été important pour moi sur mon travail.
Vous avez attendu presque, hein, pas tout à fait, mais presque 10 ans, tout en publiant bien sûr de nombreux livres, pour réaliser votre deuxième film avec des stars internationales. Film en langue anglaise. Tout de suite après, d'ailleurs, le troisième avec un casting également hollywoodien, James Caan, Rosanna Arquette. À cette époque-là, alors que votre film Holy Lands a reçu de nombreux prix, nous, en France, on a eu le sentiment qu'on vous perdait soudain un petit peu en dehors des écrans radars, de nos écrans de contrôle. On a l'impression que, voilà, Hollywood vous avait happé, vous partiez loin, soudain.
Oui, vous savez, moi j'adore la France, mais c'est très compliqué pour moi de monter des projets ici. C'est-à-dire que Hollylands, avant d'être Hollylands, c'était l'éther sainte. Il a été refusé par toutes les chaînes de télé françaises, par tous les distributeurs français. Et j'avais pourtant un très gros casting
partout en France,
alors que
accepté à Hollywood.
Je l'ai traduit en anglais et une semaine après, il était financé. Alors, en grande partie aussi par des Français et par Studio Canal qui m'a fait une grande confiance. Mais mes projets internationaux, j'ai toujours réussi à les monter beaucoup plus facilement. Et j'ai l'impression, moi, qu'il y a un désamour français.
Incroyable.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'essaye de monter Le Vieux Juif Blond en film.
Oui.
Et c'est pas simple. Alors
il faut aller le monter en Amérique.
J'espère pas. Je me bats pour ça parce que j'aimerais vraiment que ça reste une œuvre française. Mais voilà, il faut m'aider.
Le message passe. Avant de bien sûr nous retrouver dans une poignée de secondes, Amanda Sterz, mais comme ça en quelques mots, que mettez-vous dans vos films que vous ne mettez peut-être pas dans vos livres ? Alors bien sûr, cette question, c'est pas du tout un jugement de valeur, hein.
Alors, ce que je mets, c'est que je ne suis pas toute seule, c'est l'addition de plein de talents, un film. Et donc, j'ai la chance d'avoir des univers merveilleux qui s'additionnent aux miens. Et quand un film est réussi, c'est que d'un coup, il y a une sorte d'alchimie entre tous ces différents talents. On comprend, on va tous dans la même direction. Et ce qui est joli, c'est qu'on parle du réalisateur, mais en réalité, un réalisateur est rien sans une équipe.
Amanda Sterz, en 2015, vos deux fils et vous étiez au Stade de France quand des kamikazes ont tenté une attaque à l'explosif. Et ce soir-là, d'ailleurs, vous avez perdu des amis très proches qui étaient au Bataclan. Alors, vous avez décidé, on va dire, de fuir l'horreur et de poser pour un temps vos valises en Amérique avec vos enfants, bien sûr. Pourquoi avez-vous choisi Los Angeles plutôt que New York, par exemple, puisqu'on dit tellement que New York est une ville européenne?
J'y avais déjà vécu et je pensais que partir là-bas avec deux enfants, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Ils étaient petits et puis surtout, c'était un peu une sorte de bis repetita. Ça ressemble à Paris, je veux dire, une fois qu'on a vu les buildings, il y a quelque chose de très similaire. Et du coup, je voulais qu'ils découvrent quelque chose d'autre. Voilà, c'était plus simple. L'idée de partir pour une année au départ, c'était voilà, le soleil, la mer, du sport. Voilà, je me suis dit que c'était une belle qualité de vie.
Voilà, surtout que quand... allez, on va parler du coin où vous êtes posé. Quand on dit Pacific Palisades, Santa Monica, Venice, Malibu, c'est vrai que, voilà, on rêve. Vous êtes facilement intégré à la société américaine et à ses codes, parce que c'est quand même très, très codifié là-bas.
Et comme c'est codifié, c'est facile de s'intégrer. Est-ce que ça me fait plaisir ? Pas forcément.
Alors, c'est la bonne question.
C'est pas une société dans laquelle je me reconnais complètement. Et en même temps, je suis pas partie avec des illusions à 20 ans. Donc, je savais très bien ce que j'allais y trouver, de bien et de moins bien. C'est formidable professionnellement.
Déjà, vous étiez parfaitement bilingue parce que vous êtes allée adolescente à l'école bilingue.
Oui, mais c'est surtout que... c'est une autre culture. On a l'impression qu'on est très proche des Américains parce qu'on a vu tous les films américains, parce qu'on a été biberonnés aux séries américaines et qu'on a l'impression que c'est une culture qui nous ressemble. Et en fait, on est
pas
extrêmement loin. Extrêmement loin. Donc, c'est vrai que j'ai quelques amis américains, mais la majeure partie de mes amis sont ou des expatriés français ou italiens.
Alors, expliquez-nous pourquoi, si on creuse un petit peu. C'est-à-dire que c'est vrai, premier abord, ils sont tous extrêmement faciles, souriants, chaleureux. Mais après, passer, on va dire, la deuxième barrière, franchir la deuxième étape qui fait qu'on peut devenir vraiment quelqu'un d'intime, ça c'est beaucoup plus complexe.
Ouais, j'ai du mal à mettre tous les Américains dans le même sac, comme tous les Français. Enfin, voilà, il y a des exceptions à chaque fois, et puis chaque personne est différente. Mais culturellement, c'est une société individualiste. Et là où nous sommes des animaux extrêmement sociaux, ils ont quelque chose de... Voilà, il faut qu'ils avancent en rencontrant des gens qui vont avoir un intérêt pour eux. Et je sais qu'à chaque fois, quand ils viennent aux fêtes que j'organise et qu'il y a des Américains, ils sont toujours très surpris de voir qu'il y a un chauffeur Uber avec lequel j'ai sympathisé la veille et que je trouvais sympathique, le pizzaiolo.
Les dîners à LA, ça tourne souvent autour d'enjeux professionnels quand
oui,
même.
Oui, il y a toujours cette espèce d'arrière-pensée. Et la fête pour la fête ou le plaisir juste de partager n'est pas une chose qui fait partie de la culture.
Voilà. Alors, Los Angeles s'étire sur 100 km, donc on passe bien évidemment énormément de temps dans les voitures. La ville a désormais plus de 4 millions d'habitants, mais avec 7 fois moins d'habitants au kilomètre carré que Paris, et puis le soleil règne. À LA, bon, ce qui est positif, c'est qu'on n'est pas jaloux du succès des autres, simplement, tout le monde veut réussir. Alors, justement, cette ville, c'est un concentré d'American Dream.
Oui, avec ce que ça comporte de tristesse aussi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, que tout le monde n'a pas de talent, et que voilà, mais ça fait partie du décorum, et c'est vrai que chaque serveur est acteur, et voilà.
Et chanteur,
oui, et puis,
danse.
Mais il y en a qui, d'un coup, voilà, leur vie change parce qu'ils vont rencontrer quelqu'un au bon moment, au bon endroit, et ça existe encore.
Les contes de vie existent quand même encore, mais on est dans la La Land, un
moi,
peu toujours.
Moi, je suis arrivée à 36 ans avec un script sous le bras, personne ne me connaissait. Pour eux, que j'ai du succès en France, ils n'avaient rien à faire. Et puis, j'ai recommencé ma carrière à zéro. Voilà, ils m'ont laissé faire, ils m'ont donné cette chance. Donc, c'est possible.
J'imagine que vos deux garçons sont heureux à LA.
Le grand ne vit plus là-bas parce qu'il est à l'université ailleurs et il finit sa deuxième année de neurosciences, donc pas du tout. Et il n'est pas du tout dans ce monde-là et je ne pense pas qu'il sera allé quand il sera grand, mais on verra quand il sera grand, quand il sera, je ne sais pas, quand il aura un métier, le pauvre, parce qu'il est grand déjà. Le second, oui, est assez heureux, mais c'est vrai que ses copains français lui manquent.
Amanda Sterz, êtes-vous le même écrivain quand vous écrivez à LA et quand vous écrivez à Paris?
Oui, sauf qu'à LA, j'ai cette capacité à être très isolée et seule, sans qu'on m'embête. À Paris, il y a toujours, j'ai l'impression que je suis toujours sollicitée, que je n'arrive pas à avoir cette sensation de bout du monde que j'ai à Los Angeles, où je peux ne pas donner de nouvelles et être dans ma bulle. Et pour quelqu'un de solitaire, c'est agréable.
Le nouveau livre, Le Café Suspendu, qui paraît chez Grasset, vous l'avez écrit où ?
Un peu partout, entre la préparation de mon film Les Promesses à Rome, un peu à Paris, mais beaucoup à LA.
Beaucoup à LA. Les Promesses à Rome, le film est achevé,
il est sorti en Italie.
En Italie et en France, alors
en
c'est
France,
quand
ben, on attend que se libère un petit espace, parce qu'il y a eu un embouteillage avec toutes les sorties qui ont attendu après le Covid. C'est vrai que ce n'est pas le moment idéal pour sortir au cinéma. Il faut que les gens retournent dans les salles, je vous conseille de retourner dans les salles, on est très heureux. Moi aussi j'ai eu du mal au début parce qu'on s'est déshabitué et en fait on parlait de sensations, de liens, de collectif et c'est vrai que d'un coup rire avec d'autres gens, pleurer avec d'autres gens, vivre cette séance de cinéma tous ensemble, c'est quelque chose de quand même particulier.
Parce qu'on est enfermé à l'intérieur de soi lorsqu'on écrit, hein, quand même. Ouais. C'est fichtrement solitaire comme métier.
Oui. Enfin, avec plein de personnages qui nous habitent, mais c'est vrai que c'est assez solitaire. Oui.
Ouais. D'ailleurs, vous dites que les écrivains, en réalité, sont des sortes de voleurs.
Oui, je dis souvent des vampires, même, parce qu'on on prend les choses aux autres, parfois sans s'en rendre compte. C'est juste un petit geste ou une habitude qui nous fait rire ou qui nous émeut. Et c'est vrai qu'on prend à droite à gauche.
Vous avez toujours sur vous, dans votre sac, des carnets que vous noircissez ?
En général, oui.
Ouais.
Papier, un stylo, ouais. Sinon, j'ai des petits tickets de métro ou des billets d'avion qui restent, des choses où j'ai écrit en tout petit parce que c'est la seule chose que j'avais pour écrire. Mais il y a toujours un petit truc où je griffonne, ouais.
Alors, Amanda Sterz, avant de nous quitter, ça file vite le temps avec vous. Pourquoi dites-vous « J'espère avoir trahi toutes les promesses que je m'étais faites enfant » ?
Parce que j'aime pas les chemins tout tracés, parce que une vie réussie, c'est une vie accidentée. C'est une vie avec des surprises, avec les genoux écorchés, où on se relève, où on a envie de réessayer. Voilà, je pense que ça fait partie de ce qui est joli dans une vie. Je pense que les vies parfaites sont très ennuyeuses.
Bon, eh ben, ce roman, lui, il en a du relief. Effectivement, il est haut en couleur, il est cocasse, il est poétique, il est tendre, il est même bouleversant. Et puis, il est inondé du soleil de Naples. Il a pour titre « Le café suspendu ». Il paraît chez Grasset. Il faut plonger dedans avec délice. Et le lire avec gourmandise, comme il a été écrit, avec gourmandise. Merci infiniment, Amanda Sterz.
Merci, Isabelle.
Je vous souhaite un très bel été.
Merci à vous.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. 13h, 14h, Isabelle Morizet.